Chapitre 27. La localisation exacte de la tête pensante d'Al-Qaïda était un mystère depuis décembre 2001, quand, trois mois après les attentats du 11 septembre qui avaient fait près de 3000 victimes innocentes, Ben Laden avait échappé de justesse aux forces de la coalition menée par les États-Unis qui encerclait son quartier général dans la région montagneuse de Tora Bora, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les recherches s'étaient poursuivies pendant plusieurs années, mais lors de mon entrée en fonction, la piste était perdue. Cependant, Ben Laden était toujours actif. Al-Qaïda s'était progressivement réorganisé dans les régions tribales du Pakistan et son chef diffusait de temps en temps des messages audio ou vidéo appelant ses partisans au djihad contre les puissances occidentales. Depuis la toute première fois que je m'étais exprimé au sujet de la riposte des États-Unis au 11 septembre, en me déclarant opposé à la guerre d'Irak à la veille de la campagne sénatoriale de 2002, je soutenais que nous devions reprendre nos efforts pour que Ben Laden ne reste pas impuni. J'avais persévéré pendant ma campagne présidentielle en m'engageant à le pourchasser au Pakistan si le gouvernement local s'y refusait ou n'en avait pas la capacité. Presque tout Washington, y compris Joe, Hillary et John McCain, avaient vu là une promesse dans le vent, une façon pour un jeune sénateur novice en politique étrangère de montrer ses muscles. Et même après l'élection, il paraissait évident à certains que j'allais laisser le dossier Ben Laden de côté pour me concentrer sur d'autres sujets. Mais cela n'avait pas été le cas. En mai 2009, à l'issue d'une réunion sur les menaces terroristes en salle de crise, j'avais demandé à plusieurs conseillers, dont Ram, Léon Panetta et Tom Donilon, de me suivre dans le bureau ovale, et j'avais fermé la porte derrière nous. « Je veux que la traque de Ben Laden devienne une priorité », ai-je dit. « Je veux voir un plan de capture crédible. Je veux un bilan de notre progression tous les 30 jours sur mon bureau. Et Tom, nous allons mettre tout ça dans une directive présidentielle, pour être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. » J'avais des raisons évidentes de me concentrer sur Ben Laden. Le fait qu'il soit toujours en liberté constituait une source de souffrance pour les familles des victimes du 11 septembre et un camouflet adressé à la puissance américaine. Même caché, il demeurait le premier recruteur d'Al-Qaïda et continuait à radicaliser des jeunes gens désorientés aux quatre coins du monde. D'après nos analystes, lors de mon élection, fin 2008, Al-Qaïda avait retrouvé une vigueur qu'il n'avait plus connue depuis de longues années, et des alertes concernant des projets d'attentats orchestrés depuis les régions tribales du Pakistan apparaissaient régulièrement dans mes briefings. Par ailleurs, l'arrestation de Ben Laden me paraissait essentielle pour réussir à réorienter la stratégie antiterroriste des États-Unis. En cessant de nous concentrer sur la petite bande de criminels qui avaient planifié et commis les attentats du 11 septembre et en définissant la menace dans les termes d'une guerre contre le terrorisme aux limites floues, nous étions tombés dans un piège. Un piège qui augmentait le prestige d'Al-Qaïda, justifiait l'invasion de l'Irak, nous aliénait pratiquement l'intégralité du monde musulman et balayait près d'une décennie de politique étrangère américaine. Au lieu d'aviver la peur d'un vaste réseau terroriste et d'alimenter le fantasme en vertu duquel les extrémistes croyaient participer à un grand combat manichéen, je voulais rappeler au monde, et surtout à notre peuple, que ces terroristes n'étaient qu'une bande d'assassins brutaux et dérangés, des criminels qu'il était possible de capturer, de juger, d'emprisonner ou de tuer. Et pour le prouver, le meilleur moyen était encore de mettre Ben Laden hors d'état de nuire. La veille du 9e anniversaire du 11 septembre, Léon Panetta et son adjoint à la CIA, Mac Morrell, ont demandé à me voir. Je trouvais qu'ils formaient une bonne équipe. Après avoir fait une longue carrière au Congrès et été directeur du cabinet de Bill Clinton, Panetta, 72 ans, dirigeait l'agence de main de maître, mais il était aussi très à l'aise quand il s'agissait de prendre la parole en public, conservait de bonnes relations au Congrès et dans la presse, et avait le nez creux pour tout ce qui concernait la sécurité nationale. Morrell, lui, connaissait par cœur tous les rouages de l'agence, avait un esprit méticuleux d'analyste et plusieurs décennies d'expérience à la CIA, même s'il n'avait pas encore 60 ans. « Monsieur le Président, m'a dit Léon, il est encore trop tôt pour en être certain, mais nous pensons avoir une piste, la meilleure depuis Tora Bora. » J'ai assimilé la nouvelle en silence. Léon et Mike m'ont expliqué que, grâce à un travail patient et rigoureux consistant à compiler et combiner plusieurs milliers d'informations, leurs analystes avaient identifié un homme connu sous le nom d'Abu Hamed Al-Kuwaiti, qu'ils soupçonnaient de servir de messager pour Al-Qaïda et qui avait des liens avérés avec Ben Laden. Ils avaient mis son téléphone sur écoute et suivaient ses déplacements quotidiens, qui les avaient menés non pas au tréfonds des régions tribales, mais à une résidence fortifiée dans une banlieue cossue de la ville d'Abbottabad, au Pakistan, à quelques 60 kilomètres au nord d'Islamabad. D'après Mike, la taille et la structure du complexe indiquaient qu'une personnalité importante y vivait, très probablement un membre éminent d'Al-Qaïda. Nos services de renseignement avaient placé la résidence sous surveillance et Léon a promis de me tenir informé de tout ce que nous pourrions apprendre sur ses occupants. Après leur départ, je me suis efforcé de tempérer mes attentes. Cette propriété pouvait être habitée par n'importe qui. Même si c'était une personne affiliée à Al-Qaïda, la probabilité pour que Ben Laden se cache dans une zone urbaine et peuplée me paraissait minime. Mais le 14 décembre, Léon et Mike sont revenus me trouver, accompagnés cette fois par un officier et un analyste de la CIA. L'analyste était un jeune homme au teint frais et lisse d'attaché parlementaire, tandis que l'officier, plus âgé, mince et barbu, évoquait un professeur un peu débraillé. Il s'est révélé être le directeur du centre antiterroriste de la CIA et le chef de l'équipe chargée de traquer Ben Laden. Je l'ai imaginé au fin fond d'un dédale souterrain, entouré d'ordinateurs et d'épais dossiers cartonnés, parcourant des montagnes de données en oubliant l'existence du monde extérieur. Les deux hommes m'ont retracé toutes les étapes qui les avaient menés au complexe d'Abbottabad. Un formidable travail de détective. Il apparaissait que le messager, Al-Kuwaiti, avait acheté la propriété sous un nom d'emprunt. Elle était remarquablement spacieuse et sécurisée, 8 fois plus vaste que les habitations environnantes, ceinte par un mur de 3 à 5,50 mètres de haut, lui-même coiffé de barbelés et complété par d'autres murs intérieurs. Quant à ses habitants, les analystes m'ont expliqué qu'ils se donnaient beaucoup de mal pour dissimuler leur identité. Ils n'avaient ni ligne téléphonique ni abonnement à Internet, ne sortaient presque jamais et brûlaient leurs déchets au lieu de les confier au ramassage. Il y avait toutefois parmi eux des enfants dont l'âge et le nombre semblaient correspondre à ceux des enfants de Ben Laden. Enfin, la surveillance aérienne avait permis de repérer un homme de haute taille qui ne quittait jamais l'enceinte du complexe, mais se dégourdissait régulièrement les jambes dans un petit jardin. « Nous l'appelons le promeneur », a dit l'officier en chef, « et nous pensons qu'il pourrait s'agir de Ben Laden. » J'avais 1000 questions, mais la plus importante était celle-ci. Comment pouvions-nous confirmer l'identité du promeneur? Même s'il continuait à y travailler, les analystes m'ont avoué ne pas avoir beaucoup d'espoir. Étant donné la configuration et l'emplacement du complexe, ainsi que la prudence de ses occupants, les différentes méthodes de vérification risqueraient d'éveiller rapidement leurs soupçons. Ils pourraient alors disparaître à notre insu sans laisser de traces. Je me suis tourné vers l'officier en chef. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» lui ai-je demandé. Il hésitait. Je me doutais qu'il travaillait déjà à l'agence pendant la guerre d'Irak. La réputation de la communauté du renseignement restait entachée par le soutien qu'elle avait apporté au gouvernement Bush lorsqu'il avait fait croire que Saddam Hussein fabriquait des armes de destruction massive. Malgré cela, j'ai décelé sur son visage la fierté d'un homme qui avait résolu une énigme complexe, même s'il ne pouvait pas le prouver. « Je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce soit notre homme », a-t-il dit, « mais on ne peut pas en être sûr. » Avec tout ce que je venais d'apprendre, j'ai décidé que nous avions suffisamment d'informations pour commencer à réfléchir à un plan d'attaque. Pendant que la CIA s'efforçait d'identifier le promeneur, j'ai demandé à Tom Donilon et à John Brennan de plancher sur un projet d'opération. Pour ne rien simplifier, nous devions rester discrets, car si le bruit se répandait que nous avions une piste, nous savions que la cible nous filerait entre les doigts. Par conséquent, seule une poignée de personnes dans l'administration fédérale a été mise au courant. S'ajoutait à cela une autre contrainte. Nous devrions agir sans l'appui du gouvernement pakistanais. Même s'il coopérait avec nous sur quantité d'opérations antiterroristes et jouait un rôle vital dans l'approvisionnement de nos forces en Afghanistan, il était de notoriété publique que certains éléments au sein de l'armée, et surtout des renseignements, conservaient des liens avec les talibans, voire avec Al-Qaïda, qui leur servaient parfois de ressources stratégiques pour s'assurer que le gouvernement afghan demeure faible et ne puisse pas s'allier avec l'Inde, le premier rival du Pakistan. Le fait que la résidence d'Abbottabad soit située à quelques kilomètres seulement de l'équivalent pakistanais de West Point ne faisait qu'augmenter la possibilité que toute information transmise aux Pakistanais parvienne aux oreilles de notre cible. Dans ces conditions, nous allions être contraints de pénétrer illégalement sur un territoire allié de la manière la plus choquante qui soit, hors acte de guerre. Ce qui ne faisait qu'accroître les enjeux diplomatiques et les complexités opérationnelles. Mi-mars 2011, quelques jours avant l'opération en Libye et mon voyage en Amérique du Sud, l'équipe m'a présenté plusieurs ébauches de plans d'assaut sur le complexe d'Abbottabad. Pour faire simple, j'avais 2 possibilités. La première était une frappe aérienne. Les avantages étaient évidents. Aucune vie américaine ne serait mise en danger sur le sol pakistanais et nous pourrions nier toute responsabilité, du moins publiquement, Les Pakistanais sauraient bien sûr que nous étions responsables, mais il leur serait plus facile de prétendre n'avoir aucune certitude et ainsi dissiper l'indignation de leur population. Mais plus nous entrions dans les détails, plus les inconvénients de cette méthode nous apparaissaient rédhibitoires. Si nous détruisions le complexe, comment être sûr que Ben Laden s'y trouvait? Si Al-Qaïda déclarait qu'il n'était pas mort, comment expliquer que nous venions de faire sauter une maison au cœur du Pakistan? Pire encore, nous comptions 5 femmes et 20 enfants en plus des 4 hommes. Et en l'état actuel du projet, la frappe aérienne raserait non seulement l'enceinte fortifiée, mais aussi quelques maisons voisines. Peu après le début de la réunion, j'ai dit à James Hoss Cartwright, le vice-président du comité des chefs d'état-major, que j'en avais assez entendu. Il était hors de question que j'autorise le meurtre de 30 personnes, voire plus, alors que nous n'étions même pas certains que Ben Laden se trouve dans le complexe. Il n'y aurait pas de frappe aérienne sans projet plus précis. La seconde possibilité était un raid des forces spéciales. Des hommes triés sur le volet entreraient clandestinement au Pakistan en hélicoptère, s'introduiraient dans le complexe et seraient repartis avant que la police ou l'armée pakistanaise n'ait eu le temps de réagir. Pour préserver le secret de l'opération et afin de pouvoir nous défausser en cas de problème, nous devrions agir sous l'autorité de la CIA et non du Pentagone. Cependant, pour une mission de cette ampleur et avec un tel niveau de risque, nous allions avoir besoin d'un cerveau militaire de premier ordre. C'est pour cette raison que le vice-amiral William McRaven, directeur du JSOC, était présent pour nous exposer toutes les ramifications de cette proposition. Collaborer étroitement avec les hommes et les femmes de nos forces armées, observer de près leur sens du devoir et du travail en équipe, comptait parmi les plus belles leçons d'humilité de mes 2 années de présidence. Et personne mieux que Bill McRaven n'incarnait l'ensemble des qualités de cette armée. La 50aine bien entamée, avec son visage ouvert et chaleureux et son tempérament pince sans rire, spontané et dynamique, c'était une sorte de Tom Hanks grisonnant. Un Tom Hanks qui aurait fait carrière dans les Navy Seals. Comme son prédécesseur au JSOC, Stanley McChrystal, dont il avait été l'adjoint, McRaven avait contribué à écrire l'histoire des forces spéciales. 18 ans plus tôt, il avait étudié dans le cadre de sa thèse plusieurs opérations commando menées au XXe siècle, parmi lesquelles la libération de Mussolini ordonnée par Hitler en 1943 et le raid d'Entebbe en 1976, lors duquel les forces israéliennes avaient libéré les passagers d'un avion retenu en otage par des terroristes, en se concentrant sur les situations où un petit groupe de soldats d'élite bien préparés avait réussi par sa discrétion à prendre le dessus pendant un temps limité sur des forces plus importantes ou mieux armées. Les travaux de McRaven lui avaient permis de développer un modèle qui façonnait désormais les opérations spéciales américaines dans le monde entier. Tout au long de sa carrière bien remplie, il avait commandé ou exécuté plus de 1000 opérations dans les endroits les plus dangereux de la planète, les dernières en date l'amenant à poursuivre des cibles de haute importance en Afghanistan. Il était aussi connu pour ne jamais céder à la pression. En 2001, alors qu'il était capitaine des Navy Seals, il avait survécu à un accident de parachute, perdant pratiquement conscience au cours d'un saut et tombant sur 1200 mètres en chute libre avant que son parachute ne s'ouvre. Il en avait eu le dos brisé et une jambe presque arrachée. Bien que la CIA soit dotée de ses propres forces spéciales, Léon avait eu la sagesse de consulter McRaven pour tracer le schéma d'un raid sur Abbottabad. Il en avait conclu que personne dans les rangs de la CIA n'atteignait le niveau de compétence et d'expérience des Navy Seals de McRaven, et avait donc recommandé un arrangement inhabituel de la chaîne de commandement, la faisant descendre de moi à lui, puis à McRaven, lequel aurait toute autorité pour concevoir et exécuter la mission si nous choisissions cette option. En s'appuyant sur les photos aériennes du complexe d'Abbottabad, la CIA en avait fabriqué une maquette en 3 dimensions, et lors de notre réunion du mois de mars, McRaven nous a montré comment pourrait se dérouler un raid. Une équipe de SEALs décollerait de Jalalabad, en Afghanistan, à bord d'un ou plusieurs hélicoptères, volerait de nuit jusqu'à la cible et se poserait dans l'enceinte du complexe. Les SEALs sécuriseraient ensuite toutes les issues, portes et fenêtres, avant de pénétrer dans la maison et de la fouiller en neutralisant toute résistance éventuelle. Ils appréhendraient ou tueraient Ben Laden et repartiraient en hélicoptère, s'arrêtant pour faire le plein quelque part au Pakistan avant de rejoindre la base de Jalalabad. Quand McRaven a terminé son exposé, je lui ai demandé s'il pensait que ces hommes en étaient capables. Pour le moment, ce n'est qu'une ébauche, monsieur le Président. Tant que nous n'aurons pas formé une équipe et fait des répétitions, je ne pourrai pas savoir si c'est la meilleure méthode. Je ne peux pas non plus vous dire comment nous ferons pour arriver et repartir. Pour ça, il nous faudra des spécialistes de la planification aérienne. Ce que je peux vous dire, c'est que si c'est possible, nous réussirons l'opération. Mais je ne peux rien préconiser tant que je n'aurai pas tout étudié en détail. Alors qu'attendez-vous pour vous y mettre ? Lui ai-je demandé. Quand nous nous sommes retrouvés dans la salle de crise 2 semaines plus tard, le 29 mars, McRaven s'est déclaré très confiant concernant le raid. Le redécollage, en revanche, s'annonçait un peu plus sportif. D'après les opérations semblables auxquelles il avait participé et les répétitions préliminaires qu'il avait dirigées, il était pratiquement sûr que son équipe pourrait avoir terminé avant que les autorités pakistanaises ne soient alertées. Nous n'écartions pas pour autant les autres scénarios. Que ferions-nous si des avions pakistanais interceptaient nos hélicoptères à l'aller ou au retour? Et si Ben Laden était présent, mais caché dans une pièce sécurisée, obligeant ainsi les forces spéciales à rester plus longtemps au sol? Comment réagirait l'équipe si la police ou l'armée encerclait le complexe pendant le raid? McRaven a bien précisé que ce projet se fondait sur le postulat que son équipe éviterait tout contact avec les autorités pakistanaises. Si elle était amenée à les affronter au sol, il préconisait que les SEALs tiennent leur position tandis que nos diplomates tenteraient de négocier leur départ. J'étais sensible à ces réflexions qui attestaient la prudence systématique de notre commandement militaire. Mais les relations entre les États-Unis et le Pakistan étaient déjà particulièrement fragiles. Bob Gates et moi avons exprimé de sérieuses réserves. Les frappes de drones sur des cibles liées à Al-Qaïda dans les régions tribales avaient dressé l'opinion pakistanaise contre nous. Et ce sentiment anti-américain avait encore empiré fin janvier quand, dans la ville fourmillante de Lahore, Raymond Allen Davis, un sous-traitant de la CIA, avait tué 2 hommes armés qui approchaient de son véhicule, donnant lieu à des manifestations contre la présence de la CIA dans le pays et à presque 2 mois de tensions diplomatiques pour obtenir la libération de Davis. J'ai déclaré à McRaven et aux autres que je n'allais pas risquer de laisser nos SEALs entre les mains du gouvernement pakistanais, qui subirait forcément des pressions considérables pour garder nos hommes en prison, surtout si, au final, Ben Laden ne se trouvait pas dans le complexe. Je lui ai donc demandé d'étoffer son plan de telle sorte que le groupe puisse repartir quoi qu'il arrive, en ajoutant s'il le fallait 2 hélicoptères pour appuyer l'équipe au sol. Avant que nous nous séparions, Cartwright a proposé une variante de la frappe aérienne, plus chirurgicale, au moyen d'un drone qui tirerait un petit missile de 6 kilos directement sur le promeneur pendant sa sortie quotidienne. D'après Cartwright, les dégâts collatéraux seraient minimes et, considérant l'expérience acquise par notre armée dans le ciblage des terroristes de haut niveau, il estimait que cette solution pourrait fonctionner tout en évitant les dangers inhérents à un raid. Les différentes possibilités étaient à présent sur la table. McRaven allait ordonner la construction d'une reproduction du complexe d'Abbottabad à Fort Bragg, en Caroline du Nord, où les SEALs répéteraient l'opération en conditions réelles. « Si j'autorisais le raid, m'a-t-il dit, le moment optimal serait le premier week-end de mai, durant lequel 2 nuits sans lune couvriraient l'approche de nos hommes. » En filigrane, nous étions naturellement préoccupés par le fait que plus la planification progressait et plus les jours passaient, plus nombreuses étaient les personnes à connaître notre secret. J'ai dit à McRaven et à Cartwright que je n'étais pas encore prêt à trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais afin qu'ils puissent continuer à avancer, j'ai ajouté « Considérez que vous avez mon feu vert ». Pendant ce temps, le travail quotidien de la Maison Blanche se poursuivait. Je gardais un œil sur la situation en Libye, sur la guerre d'Afghanistan et sur la crise de la dette grecque, laquelle avait repris et recommencé à affecter les marchés américains. Un jour, en revenant de la salle de crise, j'ai croisé Jay Carney, qui avait succédé à Gibbs au poste de porte-parole. Jay était un ancien journaliste qui s'était retrouvé à de nombreuses reprises aux premières loges pendant des moments historiques. Il était correspondant à Moscou pour le magazine Time durant la chute de l'Union soviétique et se trouvait à bord d'Air Force One avec le président Bush le matin du 11 septembre. Ce jour-là, il m'a annoncé qu'il venait de passer une bonne partie de son point presse quotidien à répondre à des questions sur l'authenticité de mon acte de naissance. Il y avait un peu plus d'un mois que Donald Trump s'était immiscé dans la conversation politique du pays. Mes conseillers et moi avions cru que, après en avoir fait leur beurre, les médias se lasseraient peu à peu de cette obsession pour ma naissance. Et pourtant, comme des algues dans une eau stagnante, les articles relatant ces élucubrations proliféraient un peu plus chaque semaine. Des émissions consacraient de longues plages à Trump et à ses théories. Des journalistes politiques en quête d'angle neuf parlait de la signification sociologique du birtherisme, de son effet sur ma campagne, ou, avec une ironie dont il se rendait à peine compte, de ce qu'il révélait du secteur des médias. Les discussions tournaient beaucoup autour du fait que le document que nous avions diffusé en 2008 était un extrait d'acte de naissance, soit le document standard délivré par l'État de Hawaï pour les demandes de passeport, de numéro de sécurité sociale ou encore de permis de conduire. Mais à en croire Trump et sa clique, cet extrait ne prouvait rien. On nous demandait donc pourquoi je n'en avais pas fourni la version intégrale. Certaines informations avaient-elles été délibérément omises de l'extrait ? Peut-être des informations indiquant que j'étais musulman. L'acte intégral avait-il été falsifié ? Que cachait donc Obama ? Finalement, j'ai décidé que j'en avais ma claque. J'ai appelé Bob Bauer, le conseiller juridique de la Maison-Blanche, et je lui ai demandé de faire extirper l'acte intégral du volume relié dans lequel il était enfoui au fond des archives de l'état civil de Hawaï. J'ai ensuite fait savoir à David Plouffe et à Dan Pfeiffer que j'avais la ferme intention de publier ce document, mais aussi de m'exprimer à son sujet. Ils ont trouvé que c'était une mauvaise idée et soutenu que je ne ferais qu'apporter de l'eau au moulin des conspirationnistes et que de toute façon, répondre à des accusations aussi absurdes n'était digne ni de moi ni de ma fonction. « C'est précisément là où je veux en venir », ai-je répondu. C'est ainsi que, le 27 avril, j'ai pris place sur l'estrade de la salle de presse de la Maison-Blanche et j'ai salué l'Assemblée. J'ai commencé par faire observer que les chaînes nationales avaient toutes décidé, chose très rare, d'interrompre leurs programmes habituels pour diffuser mon intervention. J'ai ajouté que, deux semaines plus tôt, quand les Républicains de la Chambre et moi avions dévoilé deux propositions budgétaires opposées, les journaux télévisés étaient restés focalisés sur mon acte de naissance. J'ai ensuite noté que les États-Unis se trouvaient face à des défis importants, exigeant de grandes décisions, qu'il fallait nous attendre à des débats acharnés et parfois à des désaccords farouches, car c'était le fonctionnement normal de notre démocratie et que j'étais certain que nous étions capables de construire ensemble un avenir meilleur. Mais, ai-je continué, nous n'allons pas y arriver si nous nous laissons distraire. Nous n'allons pas y arriver si nous passons notre temps à nous traîner mutuellement dans la boue. Nous n'allons pas y arriver si nous racontons n'importe quoi en prétendant que les faits n'ont aucune valeur. Nous n'allons pas réussir à régler nos problèmes si nous nous laissons distraire par des clowns et des bonimenteurs de foire. J'ai parcouru la salle du regard. Je sais que certains continueront à s'accrocher à cette histoire, quoi que nous disions. Mais c'est à l'écrasante majorité du peuple américain que je m'adresse, ainsi qu'à la presse. Nous n'avons pas le temps pour ces bêtises. Nous avons mieux à faire. J'ai mieux à faire. Nous avons de grands problèmes à résoudre, et je suis certain que nous parviendrons à les résoudre, mais pour cela, nous allons devoir nous concentrer sur ces problèmes, pas sur des bêtises. Silence dans la salle. Je suis sorti par une des portes coulissantes menant au bureau du service de presse, où se trouvaient plusieurs jeunes membres de l'équipe qui avaient vu mon intervention. Ils paraissaient tous avoir la vingtaine. Certains étaient déjà présents pendant ma campagne, d'autres nous avaient rejoints récemment, mus par l'envie de servir leur pays. Je les ai regardés dans les yeux chacun leur tour. « On vaut mieux que ça », leur ai-je dit. « Ne l'oubliez pas.